Chapitre 45. Quand Écarlate vira abruptement sur la gauche, Richard s'accrocha de toutes ses forces au pic de ses épaules. À sa grande surprise, il avait découvert qu'il ne glissait pas latéralement quand la femelle dragon tournait d'un côté ou de l'autre. Au contraire, ce mouvement le pressait plus fort contre elle. Le vol pour lui était une expérience sublime, mais quelque peu effrayante. Comme se tenir au bord d'une falaise incroyablement haute et en mouvement. Sentir Écarlate décoller le faisait toujours sourire. Sous lui, il sentait se tendre tous les muscles de la bête, chaque battement de ses ailes puissantes leur faisant prendre un peu d'altitude. Mais quand elle les repliait pour piquer vers le sol, ses yeux se remplissaient de larmes à cause du vent et il avait l'impression que son estomac allait se retourner. Cela dit, chevaucher un dragon était un petit miracle dont il s'émerveillait.
« Tu les vois ? »
cria-t-il pour couvrir le rugissement du vent. Écarlate émit un grognement positif. À la lumière mourante du soleil, les garnes en contrebas ressemblaient à des chiens noirs. Des volutes de vapeur jaillissaient toujours de sources feu, et Richard, même de si loin, sentait monter à ses narines les fumées acides. Écarlate prit soudain de l'altitude, le contraignant à la serrer plus fort entre ses jambes. Quand elle fut assez haut, elle vira très sèchement vers la droite.
« Ils sont beaucoup trop nombreux, »
dit-elle.
« Pose-toi derrière ces collines, là-bas, pour qu'ils ne nous repèrent pas. »
La femelle dragon continua à prendre de l'altitude. Ébahi, Richard découvrit que le monde, à ses hauteurs jusque-là inconnues pour lui, ressemblait à une mosaïque de taches de couleurs. S'étant assez écarté de sources feu, la bête plongea vers la terre ferme, slalomant entre des falaises et revint en arrière vers le point que son cavalier lui avait indiqué. Quelques battements d'ailes silencieux plus tard, elle atterrit en douceur près de l'entrée d'une grotte et baissa le cou pour que Richard puisse descendre de son perchoir. À l'évidence, elle n'avait aucune envie qu'il s'attarde inutilement sur son dos. Elle tourna la tête vers lui, le regard brillant de colère.
« Il y a trop de garnes. Darkenral savait ce qu'il faisait. « Même si je retrouvais mon œuf, impossible de le reprendre. Tu as parlé d'échafauder un plan. As-tu avancé ?»
Richard jeta un coup d'œil à la caverne. La grotte du Chadrin, lui avait dit Callan.
« Il nous faut une diversion pour les occuper ailleurs pendant que nous récupérons ton œuf. »«
Pendant que tu récupères mon œuf !»
rectifia Écarlate en crachant une flamèche pour souligner son propos. Richard regarda de nouveau la grotte.
On m'a dit que cette caverne traversait tout le terrain jusqu'à l'endroit où est l'œuf. Je devrais peut-être m'y enfoncer, prendre ce qui nous intéresse et revenir ici.
Qu'attends-tu pour y aller?
On ne pourrait pas en discuter avant. Ensemble, nous trouverons peut-être une meilleure idée. La grotte, toujours selon ce qu'on m'a dit, a un locataire.
Un locataire?
Répéta Écarlate en le foudroyant du regard. Elle plaça sa gueule dans l'ouverture et cracha un enfer de flammes.
« Eh bien, à présent, il n'y en a plus. Va chercher mon œuf !»
La grotte était longue de plusieurs lieues. Aussi puissant fut-il, le feu d'Écarlate n'avait pas pu tout nettoyer. L'ennui, c'était que Richard avait donné sa parole. Résigné, il cueillit des roseaux qui poussaient alentour et composa plusieurs petits fagots qu'il attacha avec des lianes. Il en présenta un à Écarlate.
« Tu veux bien embraser une extrémité ?»
La bête arrosa le fagot de petites flammes.
« Tu attends ici, » dit Richard. « Parfois, mieux vaut être petit que colossal. Je serai plus difficile à repérer. Quand j'aurai trouvé une idée, j'irai chercher l'œuf et je le ramènerai. C'est un long chemin et je risque de ne pas être revenu avant le matin. Les gardes me poursuivront sans doute, donc tu devras être prête à décoller. Reste vigilante. »
Il accrocha son sac à une pique sur le dos d'Écarlate.
« Garde-le pour moi. Inutile de me charger plus que nécessaire. »
Un dragon pouvait-il avoir l'air inquiet? En tout cas, il aurait juré que celui-ci se rongeait les sangs.
« Sois délicat avec l'œuf, » dit-elle. « Il éclorera bientôt, mais si la coquille est brisée avant l'heure... »«
Rassure-toi, tout se passera bien. »
Écarlate l'accompagna jusqu'à l'entrée de la grotte. Sur terre, elle se dandinait d'une manière assez cocasse et le regarda s'y enfoncer.
« Richard Cypher !»
lança-t-elle, sa voix se répercutant contre la roche.
« Si tu essaies de fuir, je te retrouverai tôt ou tard. Et si tu reviens sans mon petit, tu regretteras que les gardes ne t'aient pas tué parce que je te ferai frire lentement en commençant par les pieds. »
J'ai donné ma parole, répondit Richard en se retournant. Si les gardes me tuent, j'essaierai d'en éliminer assez avant de succomber pour que tu puisses prendre l'œuf et t'enfuir.
J'espère que ça ne tournera pas comme ça,
grogna Écarlate.
Parce que j'ai toujours l'intention de te manger quand le délai sera écoulé.
Richard sourit et avança dans une obscurité si épaisse qu'elle engloutissait la lumière de sa torche et lui donna le sentiment de s'enfoncer dans le néant. À peine s'il y voyait trois pas devant lui. À mesure qu'il progressait, le sol s'inclinait et l'air devenait de plus en plus froid. Bientôt, le passage rétrécissant, il aperçut la voûte et les parois rocheuses tout près de lui. Ce tunnel déboucha assez vite dans une grande salle naturelle. Le chemin, une étroite bande de pierre, longeait un lac aux paisibles eaux verdâtres. Ici, constata Richard, sous la voûte déchiquetée, les parois étaient composées de pierres lisses. À l'abord d'un passage où le plafond rocheux plongeait vers le sol, il dut se baisser pour continuer. Une heure durant, il marcha ainsi, des crampes dans les épaules à force d'incliner la tête. De temps en temps, il frottait sa torche contre la voûte pour la débarrasser des cendres et raviver sa flamme. L'obscurité l'entourait, le suivait, l'aspirait de plus en plus loin, le poussait en avant à l'aveuglette. Dans cette atmosphère oppressante, il remarqua des parterres de cristaux aux couleurs délicates qui semblaient, tels des végétaux, éclore au sein même de la roche. Des lueurs multicolores l'accompagnaient, reflets de la flamme de sa torche quand il passait devant ces merveilles de la nature. Dans un silence absolu, seul l'écho du grésillement des flammes montait à ses oreilles. Richard traversa des salles d'une beauté fulgurante. Il serpenta entre d'immenses colonnes de pierres déchirées comme des vagues, certaines figées en plein envol avant d'avoir atteint la voûte. Des stalagmites à l'aplomb semblaient se tendre en vain pour les rejoindre. Par endroits, des tentures cristallines pendaient aux parois telles des coulées de pierres précieuses. Et il dut se faufiler dans des crevasses et traverser de petits gouffres à quatre pattes, attentif à ne pas basculer dans le vide. Au cœur de ce monde souterrain, l'air était curieusement inodore. Dans ce royaume de la nuit éternelle, comprit-il, nulle lumière ni aucun être vivant ne s'était jamais aventuré. Alors qu'il s'échinait à avancer, le corps surchauffé par l'effort, la fraîcheur de l'air faisait monter de sa peau de petites colonnes de vapeur. Quand il éclairait sa main libre, il voyait ses doigts fumer, comme si on les drainait de leur énergie vitale. Bien qu'il ne fût pas glacial à la manière de l'hiver, dehors, le froid était du genre à tuer lentement quiconque aurait eu l'imprudence de rester ici trop longtemps, ou pire, de s'y assoupir. Une mort lente, la vie s'en allant peu à peu avec la chaleur. Sans sa torche, Richard se serait perdu en quelques minutes. Dans cet environnement, les imprévoyants ou les malchanceux ne survivaient pas longtemps. À force de monter et de descendre, le jeune homme ne sentait presque plus ses jambes. Épuisé, il espéra arriver enfin au bout de la grotte. Combien de temps avait-il marché? Toute la nuit? Ici, la notion même de temps n'avait plus de sens. Les parois se resserrèrent de nouveau. La voûte s'abaissa, le forçant d'abord à se plier en deux, puis à avancer à quatre pattes. Le sol devint boueux et exhala une ignoble odeur de pourriture, la première chose qu'il sentait depuis une éternité. Et cette gadoue glacée lui gelait les mains. Au moment de s'engager dans un tunnel encore plus étroit, il s'arrêta net car cela ne lui disait rien de bon. De l'air s'engouffrait dans ce conduit naturel, menaçant de souffler sa torche. Il la brandit devant lui pour sonder l'obscurité et ne vit rien, sinon un autre océan de nuit. Que devait-il faire? Continuer dans ce goulot d'étranglement, sans savoir pendant combien de temps ni ce qui l'attendait au bout? La présence d'un courant d'air indiquait l'existence d'une sortie. Vers l'œuf et les garnes? Serait-elle assez large pour qu'il l'emprunte? Richard recula. Dans une autre salle, derrière lui, il devait y avoir un chemin plus facile, mais combien de temps perdrait-il à le chercher, et s'il échouait pour finir? L'estomac noué, il se renfonça dans le conduit de pierre. Décidé à dominer sa peur, il décrocha son épée du baudrier, la brandit devant lui avec ses torches de réserve et s'enfonça dans le trou. Aussitôt, il fut terrorisé de sentir sur son corps la pression des parois et de la voûte. Les bras tendus, la tête sur le côté, il avança en ondulant comme un serpent. La roche l'emprisonnant comme un cercueil, il lui devint impossible de respirer à fond et la fumée de la torche commença à lui brûler les yeux. Il tenta de se comprimer, puis bascula les épaules d'avant en arrière à la manière d'un serpent qui lutte pour se glisser hors de son ancienne peau. Devant lui, toujours aucune trace d'une issue. « Ne cède pas à l'angoisse !» s'exhorta-t-il. « Rampe et avance, c'est tout !» La pointe de ses pieds calée contre la pierre, il poussa en se tortillant. Rien ne se produisit. Il recommença et ne bougea pas d'un pouce. Furieux, il poussa encore plus fort, sans résultat. Cette fois, il ne put rien contre la panique. La roche faisait pression sur sa poitrine et son dos et lui coupait le souffle. Il était coincé. Une montagne de pierres pesait sur lui, prison d'il ne savait combien de milliers de pieds d'épaisseur. Affolé, il essaya de reculer. Même en faisant levier avec ses bras agrippés à une saillie de pierre, il ne bougea pas d'un pouce. Coincé, piégé, fichu. Comme s'il se noyait, ses poumons le brûlèrent, incapable d'aspirer encore de l'air. Des larmes dans les yeux, la gorge nouée par la peur, il laboura le sol de la pointe des pieds pour se déplacer dans un sens ou dans un autre. Rien n'y fit. La position de ses bras, tendus à l'extrême, lui rappela le harnais infernal de Dena. L'impuissance absolue. Privé de la mobilité de ses membres supérieurs, un homme devenait quasiment impuissant. Une sueur froide ruisselant sur son visage, il cria de panique, soudain certain que les parois cherchaient à le broyer entre leurs mâchoires de pierre. Quelqu'un allait-il enfin venir à son aide? Par pitié, il le fallait. Même dans les entrailles de la terre, qui pouvait l'entendre? Au prix d'un effort surhumain, il avança de quelques pouces. Un remède pire que le mal, puisque la pression de la voûte et du sol augmenta. Persuadé d'entendre craquer ses os, il cria hystériquement.
« Maître Oral nous guide. Maître Oral nous dispense son enseignement. Maître Oral nous protège. À sa lumière, nous nous épanouissons. Dans sa bienveillance, nous nous réfugions. Devant sa sagesse, nous nous inclinons. Nous existons pour le servir, et nos vies lui appartiennent. »
L'invocation stupide avait explosé dans son esprit. Il la répéta jusqu'à ce que son souffle s'apaise et qu'il eût retrouvé son calme. Son corps restait piégé. Mais son esprit fonctionnait de nouveau. Alors, quelque chose toucha sa cheville. Un contact timide, exploratoire. Les yeux écarquillés de terreur, Richard détendit sa jambe autant qu'il le put pour chasser l'intrus. Cette infime secousse suffit à le repousser. Pas longtemps. Richard se pétrifia. Cette fois, une masse froide, humide et visqueuse s'insinua dans la jambe de son pantalon. Une sorte de tentacule à pointe dure rampa sur sa peau et remonta jusqu'à sa cuisse. Une nouvelle ruade, ô combien dérisoire, ne le découragea pas de continuer. La pointe dure tapota sa peau. En amont de l'agresseur, quelque monstrueux appendice la pinça. La panique revint, mais le sourcier parvint à la conjurer. À présent, il n'avait plus le choix. L'idée lui avait déjà traversé l'esprit, trop effrayante pour qu'il se résigne à l'essayer. Certain de jouer sa dernière carte, il vida tout l'air de ses poumons, se faisant aussi petit que possible. Alors, il poussa avec ses pieds, tira avec ses mains et se tortilla de nouveau comme un ver. Et enfin, il avança. Le passage devint encore plus étroit. Toujours sans respirer, Richard chassa la douleur et la panique de son esprit. Au terme d'une autre poussée, ses doigts rencontrèrent quelque chose. Les bords d'une ouverture, peut-être. L'issue de ce piège? Il expira encore au moment où la créature qui l'attaquait lâchait un grognement et s'accrochait violemment à sa jambe. Richard tendit ses doigts au maximum, les referma sur les bords de l'ouverture et poussa encore avec ses pieds. Il avança, les coudes au niveau de l'orifice. Sur toute la longueur de sa jambe, des griffes pointues comme celles d'un chat s'enfoncèrent dans sa chair. Incapable de crier, il glissa encore, poussé par la douleur qui remontait de sa cheville à sa hanche.
La torche, les roseaux de réserve et l'épée de vérité tombèrent en avant. En heurtant la pierre, l'arme émit une série de cliquetis métalliques. Les coudes comme point d'appui, Richard passa le torse dans l'ouverture et aspira aussitôt une énorme goulée d'air. Puis, il arracha son corps entier à sa prison de roche, bascula dans le vide tête la première et resta suspendu ainsi. Le monstre le retenait toujours par la jambe. La torche brûlait encore, éclairant une salle à l'étrange forme ovoïde. L'épée reposait non loin de là. Quand il tendit les bras pour s'en emparer, les griffes résistèrent, le redressant un peu tant elles étaient puissantes. Il cria de douleur et l'écho se répercuta tout autour de la salle. Richard ne pouvait pas atteindre l'épée. Lentement, douloureusement, les griffes du prédateur inconnu le ramenaient dans le tunnel. Tandis qu'elle lui déchirait la chair, insensible à ses hurlements de douleur, il sentit un deuxième tentacule s'infiltrer dans son autre jambe de pantalon et tester le muscle de son mollet du bout de la pointe. Le sourcier dégaina son couteau et se plia en deux pour atteindre la créature qui l'emprisonnait. Sans relâche, il la larda de coups jusqu'à ce que retentisse, venu des profondeurs du conduit, un cri aigu de douleur. Les griffes se rétractèrent. Richard glissa le long de la roche et atterrit près de la torche. Saisissant le fourreau de la main gauche, il dégaina l'épée de vérité et la brandit quand les deux tentacules émergèrent du trou et ondulèrent comme des serpents à la recherche de leur proie. Alors qu'il rampait vers lui, le jeune homme abattit sa lame. Soudain plus court d'un bon pied, les appendices battirent en retraite et un grognement sourd retentit dans les profondeurs du conduit. À la lumière de la torche qui brûlait toujours sur le sol, Richard vit une masse sombre se glisser par l'ouverture. Trop loin pour la frapper avec son épée, il n'était pourtant pas question qu'il la laisse entrer dans la salle. Un tentacule s'enroula autour de sa taille et le souleva. Richard se laissa faire. Un œil brilla soudain dans la pénombre, sondant les lieux. Puis une gueule immense s'ouvrit sur des crocs dégoulinant de bave. Au moment où le tentacule en approchait, le sourcier enfonça sa lame dans le globe oculaire bulbeux. Son adversaire le lâcha et hurla à la mort. Alors qu'il glissait de nouveau sur la roche, Richard vit la bête se renfoncer dans le trou. Les tentacules disparurent les derniers dans un concert de cris qui mourut lentement à mesure que le monstre s'éloignait. Tremblant, Richard s'assit et se passa une main dans les cheveux. Peu à peu, sa respiration se stabilisa et sa peur se dissipa. Quand il baissa les yeux sur sa jambe, il constata que le pantalon était poisseux de sang. Pour l'instant, il n'y pouvait rien. L'urgence, c'était de retrouver l'œuf. Il s'engagea dans le tunnel qui s'ouvrait à l'autre bout de la salle. Dans ce passage confortablement large, brillait une lumière palichonne mais de fort bon augure. De fait, il atteignit vite la sortie de la grotte. La lueur rosée de l'aube l'accueillit, ponctuée par les chants joyeux des oiseaux. En contrebas, des dizaines de garnes grouillaient. Richard s'assit sur un rocher et contempla l'œuf entouré de volutes de vapeur. Comme il le redoutait, il était trop gros pour passer dans la grotte. Et de toute manière, il refusait d'y retourner. Mais comment s'y prendre pour le ramener à Écarlate ? Bientôt il ferait jour. S'il ne trouvait pas vite une solution... Un insecte se colla à sa jambe blessée et le piqua. D'instinct, il écrasa cet importun. Une mouche à sang. Après cette erreur grossière, les gardes n'auraient aucun mal à le trouver. Quand une deuxième mouche le piqua, une idée lui traversa l'esprit. Il dégaina son couteau, découpa en lanières la jambe rougie de son pantalon, s'en servit pour essuyer le sang sur sa peau et attacha une pierre au bout de chacune. Il prit le sifflet de l'homme-oiseau à son cou et souffla dedans à s'en rompre les muscles du cou. Puis, il ramassa une des bandes de tissu lestées d'une pierre, la fit tourner autour de sa tête et la lança vers le bas au milieu des garnes. Il répéta l'opération avec les autres, visant de plus en plus loin parmi les arbres sur sa droite. Même s'il ne les entendit pas, il sut que les mouches devaient déjà s'affoler. Du sang si frais, un régal pour elles. Des oiseaux affamés, d'abord quelques-uns, puis des centaines et des milliers, apparurent dans le ciel et piquèrent sur source feu, gobant les mouches au passage.
Dans la confusion générale, des gardes hurlèrent de rage de voir les oiseaux cueillir leur petite compagne en plein vol, certains assez audacieux pour les leur subtiliser sur le ventre. Puis quelques monstres s'envolèrent. Pour chaque oiseau qu'ils tuaient, une centaine de nouveaux arrivaient. Richard descendit la colline. Accroupi, il passait de rocher en rocher sans craindre d'être entendu sous le piaillement cacophonique des volatiles. Fous furieux, les gardes luttaient grotesquement contre ces minuscules envahisseurs. L'air n'était plus qu'un océan de plumes. Richard sourit, désolé que l'homme-oiseau ne soit pas là pour voir ça. Il sortit du champ de rocher et courut vers l'œuf. Autour de lui, dans un épouvantable chaos, les gardes se bousculaient les uns les autres et commençaient à se battre. Il transperça de son épée un des monstres qui le remarqua en blessant un autre à la patte, coupa l'aile d'un troisième et trancha les bras d'un quatrième. Il les avait épargnés délibérément, histoire qu'ils ajoutent à la confusion en se roulant sur le sol leurs cris de douleur en prime. Dans cette cohue, les monstres qui le voyaient ne songeaient même plus à l'attaquer, mais lui ne s'en priva pas. Il en tua deux à côté de l'œuf. Puis il s'empara du trésor d'écarlate, chaud mais pas assez pour le brûler, le cala dans ses bras et constata qu'il était plus lourd que prévu. Aussi vite qu'il put avec ce fardeau, Richard courut vers la gauche en direction de la ravine qui serpentait entre deux collines. Les oiseaux volaient en tous sens et certains s'écrasèrent contre lui. Quand deux gardes lui fondirent dessus, il posa l'œuf, tua le premier puis coupa une patte au second. Un troisième bondit, venant obligeamment s'empaler sur son épée. Richard ramassa l'œuf avant de s'enfoncer entre les collines, les bras douloureux et le souffle court. Un groupe de gardes lancé à sa poursuite gagna rapidement du terrain. Il reposa son fardeau, décapita le premier et s'apprêta à repousser la charge des autres. Autour de lui, les arbres s'embrasèrent, les pierres chauffant au rouge. Une langue de flamme venait de carboniser les monstres. Levant les yeux, Richard vit Écarlate en vol stationnaire au-dessus de sa tête. Enragée, elle arrosait tout de flammes. Sans cesser de semer la mort, elle tendit une serre, récupéra l'œuf, puis répéta l'opération pour soulever Richard par le dos de sa chemise. Il décollait à peine quand deux nouveaux gardes tentèrent de l'arrêter. L'un goûta au tranchant de l'épée de vérité et l'autre disparut dans une colonne de feu. Sur un dernier rugissement de rage, Écarlate prit de l'altitude, Richard toujours piqué au bout de sa serre. Tant qu'à voler, il préférait une position plus confortable, mais c'était toujours mieux qu'un petit séjour parmi une bande de gardes, forcément. Écarlate le conduisit loin de Source-Feu. Transporté comme ça, il avait le sentiment d'être une proie qu'elle ramenait à ses petits. Ses côtes lui faisaient un peu mal, mais il se garda bien de se plaindre. À cette hauteur, mieux valait qu'elle ne le lâche pas en essayant d'améliorer son confort. Ils volèrent pendant des heures. Très prudemment, Richard parvint à adopter une position moins pénible. Alors il regarda stoïquement les arbres et les collines défiler sous lui. Au passage, il aperçut un ruisseau, des champs cultivés et même un village. Puis les collines grandirent, se couvrirent de pierres et devinrent des falaises et des pics. À grands battements d'ailes, Écarlate prit davantage d'altitude, les pieds de Richard frôlant parfois quelques pointes de montagne plus hautes qu'une autre. La femelle dragon les conduisit dans un paysage désolé semé de grandes pierres marron et gris qui semblaient avoir été empilées là au hasard par un géant, comme des pièces de monnaie sur une table. Si de fières colonnes survivaient encore, la plupart s'étaient affaissées, voire écroulées. Au-delà de cet amas de pierres se dressaient des falaises déchiquetées, constellées de crevasses et hérissées d'éperons rocheux. Devant, quelques filaments de nuages dérivaient paresseusement. Écarlate fonça vers une de ces murailles. Certain qu'ils allaient s'écraser, Richard crut sa dernière heure venue, mais au dernier moment, la femelle dragon décéléra, s'immobilisa et le déposa sur une grande saillie rocheuse avant d'atterrir à côté de lui. Une grotte s'ouvrait dans la paroi. Écarlate y entra, non sans difficulté. Au fond, Richard aperçut une sorte de nid de pierre. Sa nouvelle amie y déposa l'œuf, puis cracha du feu tout autour. Ébahi, le sourcier la regarda caresser la coquille du bout d'une serre, l'inspectant minutieusement. Elle crachota encore des flammèches autour de son trésor, puis tendit le cou et écouta tous les sens en éveil. « Tout va bien ?» demanda Richard.
« Oui, c'est parfait !»
répondit la femelle dragon extatique.
« J'en suis très content, Écarlate, du fond du cœur. »
Il avança vers elle. Aussitôt, sa tête se tendit, menaçante.
« Je voudrais récupérer mon sac, c'est tout. Il est pendu à une pique sur ton épaule. »«
Désolé, j'ai cru que... Vas-y. »
Richard reprit son bien et s'assit contre la paroi près de l'entrée pour avoir un peu de lumière. Jetant un coup d'œil dehors, il constata qu'ils étaient à des milliers de pieds d'altitude. Si Écarlate n'était pas du genre à tenir parole... Il sortit du sac son pantalon de rechange et eut la surprise d'y trouver autre chose. Un pot rempli de longans qu'il avait préparé pour Dena quand Ral s'était acharné sur elle. Elle avait dû le mettre là à un moment ou un autre. Baissant les yeux sur la gielle, il sourit tristement au souvenir de sa maîtresse. Comment pouvait-il avoir de la peine pour quelqu'un qui l'avait tourmenté? La réponse était simple. Il lui avait pardonné avec l'aide de la magie blanche. L'onguen à base de poudre d'ahom lui fit un bien fou. La brûlure des griffes apaisée, il gémit d'aise et remercia mentalement Dena d'avoir mis ce trésor dans son sac. Puis il retira les lambeaux de son pantalon.
« Tu as l'air ridicule en caleçon !»
lança Écarlate. Richard se retourna d'un bond. Un homme ne se sent jamais très rassuré quand une femme lui dit ça, même si c'est un reptile ailé géant. Il lui tourna le dos et enfila son pantalon de rechange.
« Tu es blessé ?»
demanda Écarlate.
« Les garnes ?»«
Non, dans la grotte. »
Il s'interrompit, secoué par cet horrible souvenir, puis il se rassit, les yeux rivés sur la pointe de ses bottes.
« J'ai dû passer dans un tunnel très étroit. » Le seul chemin, et j'ai été coincé.
Il releva la tête. Depuis que je suis parti de chez moi pour lutter contre Ral, j'ai eu peur plus souvent qu'à mon tour. Mais être piégé sous terre, sans pouvoir respirer, écrasé par la roche, eh bien, c'était une de mes pires expériences. De plus, je ne sais quel monstre m'a enfoncé ses griffes dans la jambe pendant que j'essayais de m'en sortir.
Une serre sur son trésor, Écarlate le regarda un long moment en silence.
« Richard Cypher, » dit-elle enfin, « merci d'avoir tenu parole. Tu m'as rendu mon petit. Même pour une créature sans écailles et sans ailes, tu es rudement courageux. Je n'aurais jamais cru qu'un humain risquerait sa vie pour aider un dragon. »«
Je ne l'ai pas fait que pour toi. Comme ça, je pourrais aussi sauver mes amis. »«
Et il est honnête en plus. »
soupira Écarlate.
« Je crois que tu aurais agi ainsi de toute façon. Désolé que tu aies été blessé et que tu aies eu si peur. En général, les hommes essaient de tuer les dragons. Tu es peut-être le premier qui en est d'un, quelles que soient les raisons. Crois-moi, j'avais des doutes. »
« Pour tout dire, tu es arrivé au bon moment. Ces gardes auraient fini par m'avoir. Au fait, pourquoi m'as-tu désobéi ?» Je t'avais dit de m'attendre.
Bien que j'aie honte de l'avouer, je pensais que tu avais filé. En venant jeter un coup d'œil, j'ai entendu le vacarme. C'est aussi simple que ça. À présent, je vais honorer ma part du marché.
Merci, Écarlate. Mais peux-tu laisser l'œuf sans soin? Et si Ral le volait de nouveau?
Pas ici. Après qu'il me l'eût pris, j'ai passé des semaines à chercher un endroit comme celui-là, pour cacher mon petit si je le retrouvais. Ral ne le découvrira jamais. Quant aux soins, ce n'est pas un problème. Lorsque les femelles dragons vont chasser, elles chauffent la pierre avec leur souffle pour que l'œuf soit au chaud.
Écarlate, il ne me reste plus beaucoup de temps. Quand pouvons-nous partir?
Tout de suite !